Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un épisode de Tranquilux où on va parler Amazon qui aide à soigner le cancer, Bill Gates qui veut sauver l'humanité, des intelligences artificielles qui génèrent des choses pour lesquelles on n'a peut-être pas les droits et plein d'autres choses intéressantes que j'ai notées pendant mes vacances. Allez hop, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, c'est Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech. Nous sommes en août, nous sommes même le 2 août, donc c'est un épisode vraiment estival. Je parlais avec la chatroom Twitch à l'instant et je me demandais si c'était un épisode estival tranquilloux ou tranquillax. Je ne suis pas sûr des conventions aujourd'hui. On va faire une petite balade comme ça dans les sujets que j'ai notés pendant ces quelques semaines de vacances. Mais maintenant, les enfants sont de retour à la crèche, donc tout va bien. Et il y a quelques sujets, il y en a 5 particulièrement intéressants que j'ai notés, dont j'aimerais vous parler. Et puis, on fera peut-être aussi quelques sujets un petit peu plus d'actu ensuite, traités rapidement. Mais vraiment, l'idée, c'est je suis tout seul aujourd'hui. Enfin, tout seul, non, je suis avec vous. Et puis, on va passer un petit moment, comme ça, ensemble, paisible, tranquille, à parler un petit peu de tech et de tech, de sujets peut-être un petit peu moins d'actu brûlante que ce que je fais d'habitude. Avant ça, évidemment, j'aimerais remercier les patriotes qui ont rejoint la formidable famille des patriotes. La formidable faillite des patriotes. C'est vrai qu'il y en a, il y en a pas énormément. On sent la crise en ce moment. Mais il y a quand même des courageux qui ont rejoint le Patreon. Il y a Willy Brownhair, David, Gillian Martin et Benoît. Merci à vous quatre qui avez rejoint le Patreon. Vous êtes absolument formidables. Et merci aussi aux producteurs, Aubeuf et Lancelot Davizard qui, comme toujours, sont remerciés puisqu'ils ont trouvé le niveau incroyable secret du Patreon secret. Donc, j'ai quelques sujets intéressants que j'aimerais traiter. Et on me demande dans la chatroom, comment tu fais pour écouter sans le son ? D'accord, c'est des gens qui se parlent entre eux. C'est sympa, hein, la chatroom Twitch. Vous pouvez venir écouter l'émission ou la regarder, clairement, s'il y a des gens qui regardent sans le son. Si vous êtes là le mardi à midi sur Twitch, je fais ça assez régulièrement, sauf la semaine prochaine, puisque vous le savez. Oui, je vous fais un petit programme, un résumé du programme des vacances. Il y a eu des épisodes spéciaux ces dernières semaines. Un épisode sur l'e-commerce qui était vraiment intéressant et un épisode sur les supercalculateurs qui était lui aussi hyper intéressant. Je vous recommande d'aller les réécouter si vous les avez ratés ces dernières semaines. Aujourd'hui, donc, épisode balade en forêt, tranquilloux. Et puis, la semaine prochaine, je serai pour mes vraies vacances avec ma femme. Si tout va bien, là, on est à 4 jours, donc il faudrait vraiment une catastrophe pour que ça ne se fasse pas. Mais on va aller avec ma femme une semaine ensemble, tous les deux, presque une semaine complète, tous les deux en vacances, sans les enfants. Et ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait ça, comme je le disais quand je vous l'annonçais. Donc, c'est vraiment un événement important hein, pour nous, vous vous en doutez. Et on va aller se reposer un petit peu, ne rien faire. C'est à Paris, hein, donc ce n'est pas non plus dans les îles. Mais j'ai très, très hâte. Donc ça sera la semaine prochaine. Il y aura Guillaume Vendée qui va venir vous faire l'émission. Donc, je suis sûr que vous serez bien servi par Guillaume, comme vous l'avez été par Jérôme et ses compagnons de Nowtech à la première semaine des vacances, il y a quelques semaines. D'ailleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je tenais à applaudir Jérôme, Marion et l'autre Guillaume, qui ont très bien traité ces sujets difficiles. Hein, les Uber Files et c'était quoi d'autre ? C'était Uber Files, attendez, je vais regarder les... Oui, c'est Twitter, Uber Files, les sujets du Z-Event. Ce n'est pas facile à traiter, ils se sont extrêmement bien acquittés de leur mission que je leur avais confiée. Donc un grand merci à eux. Mais bon, bref, donc voilà pour le programme des vacances. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se lance dans l'émission à proprement parler avec les sujets principaux, les infos principales pour aujourd'hui, qui sont des sujets que j'ai retenus pendant ces quelques semaines de vacances. Évidemment, je continue à suivre un petit peu l'actu. Et puis, je n'ai pas noté l'actualité brûlante, mais des news intéressantes. Alors, on va parler de Amazon, de Bill Gates, d'intelligence artificielle, de protestware, de sea lioning, ce genre de choses. Et le premier, donc, c'est quelques sujets sur Amazon. D'abord, vous vous souvenez que le prix d'Amazon Prime a augmenté en France, ce qui a provoqué de nombreux débats. Moi, je trouve que l'offre reste quand même hyper intéressante malgré l'augmentation du prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous désabonner à Amazon si vous avez encore le temps. C'est le 15 septembre, je crois, si vous pensez que ça devient trop cher. Ça passe de 50 ou 60 à 79, je crois, quelque chose comme ça. Mais on ne va pas trop parler de ça. Il y a une autre info sur Amazon qui m'a interpellé aussi. Le dernier trimestre, les effectifs, le nombre d'employés d'Amazon a baissé de 99 000 personnes. Et je me suis dit, mais attendez, le nombre d'employés d'Amazon dans le monde a été réduit de 99 000 personnes, donc 100 000 personnes en moins chez les employés d'Amazon au deuxième trimestre. Ça veut dire qu'ils ont combien d'employés chez Amazon au total ? Eh bien, il y a 1,52 million d'employés Amazon dans le monde, après la perte des 100 millions du deuxième trimestre. 1,5 million, je vous avoue que si on m'avait demandé comme ça à froid combien il y a d'employés Amazon dans le monde, j'aurais dit, je sais pas, quelques centaines de milliers, mais 1,5 million, et déjà quelques centaines de milliers, j'aurais pris un risque dans mon esprit. À noter d'ailleurs que dans l'article de GeekWire, il note, comme certains l'ont noté quand j'ai tweeté cette news sur mon compte de veille, RDV Tech, que c'est les employés en propre d'Amazon, et pas les employés, enfin les travailleurs qui dépendent d'Amazon, mais qui ne font pas partie de la boîte. Donc, Amazon, effectivement, emploie beaucoup de monde. Mais le plus important dont je voulais parler, c'est cette information selon laquelle Amazon, en partenariat avec Fred Hutchinson, qui est un centre de recherche sur le cancer, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler à des vaccins personnalisés contre certains types de cancers. Je vais faire un tout petit détour pour noter que j'en parlais avec les Patriotes dans un édito il y a quelques semaines. J'avais l'impression, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais dans les émissions, je crains par la force des choses, par la nature de l'actualité, de commencer à me, pas juste de commencer, mais de me focaliser un petit peu trop sur des sujets, je ne vais pas dire sérieux, mais parfois presque un petit peu déprimants et de société. Et je ne dis pas que je ne dois pas les traiter, mais je réfléchissais à haute voix avec les Patriotes en me disant peut-être qu'il faudrait que j'équilibre un petit peu plus sciemment, de manière éditoriale, les sujets que je traite, parce que même moi, finalement, pour ma santé mentale, ça finit par me plomber un petit peu. Et c'est pas qu'il n'y a pas des sujets intéressants au minimum et parfois même plutôt positifs, c'est juste qu'ils me paraissent peut-être, ils me semblent un petit peu moins importants que les sujets qui sont déprimants ou graves. Et peut-être que c'est mon biais humain qui fait que j'accorde plus d'intention, d'impression, d'urgence aux sujets négatifs. Mais quelque chose comme ça, un sujet, une news comme le fait qu'Amazon lance des essais cliniques sur un vaccin sur le certain type de cancer, c'est peut-être un tout petit peu à la marge de la tech, mais c'est de la tech quand même, certainement autant que d'autres sujets qu'on traite dans l'émission désormais. Et c'est quelque chose de positif. Je fais une autre petite note pour dire que certains me disent qu'il faudrait peut-être essayer de parler plus de tech, de matériel, de ce genre de choses. Et évidemment, j'aime beaucoup parler de matériel. Mais le fait est qu'on n'est plus en 2010 ou 2012 et on ne peut pas vraiment faire une émission. Enfin, moi, ça ne m'intéresserait pas de parler de chaque téléphone Android qui sort, par exemple, ou même avec les iPhones. On est quand même, alors on en parle quand il y en a qui sont importants, mais on est quand même sur des choses qui sont itératives plus que vraiment intéressantes. Et couvrir un téléphone Android par semaine ou même par mois, ça serait répéter la même chose. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de choses que j'ai envie de faire. Pareil avec les processeurs. Quand il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec les processeurs, des nouveaux processeurs, d'ailleurs, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. On en parle, évidemment. Ce n'est pas que je vais sciemment, intentionnellement, pas du tout en parler. Mais c'est vrai que ça peut pas être le cœur de l'émission, le plat principal de l'émission, ou ça peut plus l'être aujourd'hui. Et des choses comme ça, comme ces essais cliniques, bah, ça peut justement venir complémenter les sujets dont on parle. Et donc, de quoi parle-t-on exactement ? En fait, Amazon a une section au sein d'Amazon qui s'appelle, c'est Grand Challenge, qui est un département de recherche et développement au sein d'Amazon, qui essayait de développer ces vaccins eux-mêmes. Et puis, ils ont fini par s'associer avec cet institut de recherche qui s'appelle Fred Hutchinson Research Cancer Research Center. Et ils sont donc en train de développer des vaccins contre le cancer, contre certains types de cancers. On parle de vaccins contre des cancers de la peau et, alors que je ne dise pas de bêtises, et cancer du sein. Et alors, je ne sais pas si c'est lié au vaccin ARN messager qui ont été développés suite à la pandémie, mais c'est ce qu'on nous promettait, en fait, avec les succès des vaccins ARN messager. Et ben, ça pourrait mener à des résultats dans les vaccins contre le sida, dont on a déjà entendu parler, qui sont déjà une étape absolument fondamentale, surtout pour des gens comme moi qui ont grandi avec une société dans laquelle c'était un tel problème et une telle inévitabilité. Et là, le cancer, alors, c'est des cancers spécifiques hein, qu'ils vont tester, et ils cherchent, c'est vraiment une phase 1 de tests cliniques, d'essais cliniques avec 20 participants, donc on est vraiment dans quelque chose de limité, ça se trouve, ça ne marchera pas. Mais on avance dans ce domaine de recherche et j'ai trouvé ça assez incroyable. Encore une fois, pour quelqu'un, pour nous tous, hein, le cancer, c'est un petit peu quelque chose d'inévitable dans notre société. Et l'idée qu'on pourrait le conquérir, c'est une sorte de rêve inatteignable qui va peut-être se réaliser. En tout cas, on est dans les premières étapes d'une recherche qui pourrait nous y amener. Quelque chose à surveiller également, c'est cette idée de cancer, de vaccin personnalisé. Ils disent spécifiquement l'idée de développer des personalized vaccines, donc des vaccins personnalisés. Est-ce que ça veut dire que ça va traiter spécifiquement, on va développer un vaccin par personne parce que ça va détecter les cellules saines et les cellules non saines? Peut-être qu'il y a quelque chose de ça, parce que bien sûr, le vaccin, c'est des cellules qui sont corrompues, mais des cellules d'une personne spécifique. Donc, pour savoir lesquels il faut attaquer et pas attaquer, ça peut être une personnalisation du vaccin. On dit dans la chatroom, personnaliser, ça veut dire expensive. Il y a 7 choses à prendre en compte aussi. Est-ce que ça sera extrêmement cher de faire personnaliser un vaccin ? Bon, c'est une question qu'il faudra observer également avec attention, mais là, on en est aux premières étapes. Un autre sujet dont je voulais parler, c'est... alors, Microsoft, pas vraiment, et puis Bill Gates. Microsoft, il y a quand même une news intéressante de leur côté avec Windows. Il semblerait qu'ils soient en train de passer un cycle triannuel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, triannuel pour les nouvelles versions de Windows. Donc, il fut une époque où on pensait que Windows 10 serait la dernière version de Windows, depuis on a eu Windows 12, et là, on serait en train de penser à des nouveaux Windows tous les 3 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une nouvelle version numéraire de Windows tous les 3 ans ? Est-ce que c'est parce que ça fait du bien de vendre des Windows et qu'on en vend quand il y a une nouvelle version ? C'est pas totalement impossible. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple de gérer les choses avec des versions de Windows qui sont numérotées ? C'est possible aussi, hein, peut-être que ça joue également. Mais quoi qu'il en soit, on a donc Windows 11 aujourd'hui. Et je pense en 2024, on aura Windows 12 si ce nouveau cycle est confirmé. On aura quand même évidemment des mises à jour importantes entre-temps. Hein. Ce n'est pas que Windows ne sera pas mise à jour entre ces 3 ans. Mais l'idée qu'il y ait des nouvelles versions de Windows... Alors, j'imagine, moi, qu'ils ne les feront pas payer pour les particuliers. C'est vraiment pour vendre de la licence en volume aux entreprises, parce que pour les particuliers, ils ont tout intérêt à ce que les gens soient sur la dernière version de Windows, alors que les sociétés peuvent payer. Et effectivement, Deux choses qu'on nous dit dans la chatroom. Oui, comme je le disais, il y a eu un moment avec Windows 10 où ils ont sous-entendu qu'il n'y aurait plus de nouvelle version, mais qu'il serait uniquement mis à jour. Puis l'autre chose, comme le dit Dr Valal, on vend du matériel compatible Windows suivant. Et effectivement, ça peut aider les constructeurs à faire vendre du matériel qui est compatible avec la nouvelle version de Windows. Ceci dit, je pense que si on parle de cycle de 3 ans, un matériel acheté, il tient au moins 5 ans et il va tenir donc deux versions. Au moment où ça sera la prochaine version, il était temps de changer le matériel de toute façon pour les gens qui considèrent les choses de cette manière. Oui, ça aide quand même les constructeurs à vendre plus de produits dont on n'a pas forcément besoin. On peut le voir comme ça. Mais tous les 3 ans, je ne suis pas sûr que ça pousse à ce point au renouvellement. Pour Microsoft, ça vend des licences aussi, hein, puisque pour le matériel, il faut avoir une licence dessus, en plus d'aider les constructeurs à vendre. Et puis, il y a des sociétés qui vont payer les licences également. Bref, moi, je sens... Peut-être qu'il y a un intérêt à avoir un numéro de version pour qu'on sache où on en est, comme sur macOS, on a des noms de version annuelle. Bon, je pense que c'est peut-être un impératif ou une opération financière que fait Microsoft à ce niveau. Mais le sujet dont je voulais vraiment parler, c'est lié à Microsoft, c'est Bill Gates. Bill Gates qui a mis à jour son plan pour sa fondation, la fondation Bill & Melinda Gates, et la manière dont il va dépenser son argent. C'est quelque chose qui est, je pense, assez facile à critiquer parce qu'on a une image qui est assez négative de Bill Gates. Du temps de Windows, c'est vrai que c'était un businessman sans scrupules et qu'on aime beaucoup critiquer la manière dont il a géré sa société et l'informatique, dont il a orienté l'informatique. Bon, sans rentrer dans ces sujets-là, il faut avouer que depuis... qu'il n'est plus à la tête de Microsoft, il s'est dédié à sa fondation et il fait énormément de travail pour essayer de faire alors, différentes choses. Vous vous souvenez peut-être qu'il avait essayé de prévenir le monde des dangers, de différents dangers, dont celui d'une pandémie, il y a quelques années de ça. Donc, ses objectifs aujourd'hui sont un petit peu les mêmes, mais lutter contre les pandémies, réduire la mortalité infantile, éliminer les maladies. Il pense notamment à la polio. Et il y a d'autres maladies qui sont dans son collimateur. Il pense à la santé alimentaire, à l'égalité des genres aussi, à améliorer l'éducation, et bien sûr le changement climatique, essayer de combattre le changement climatique. C'est vraiment une chose qui me paraît intéressante parce que la manière dont Bill Gates appréhende ces problèmes... Alors, il fait ce qu'il peut, hein. Il a énormément d'argent, il en dépense beaucoup. Et d'ailleurs, l'une des choses qu'ils disent dans ce blog, c'est qu'à la fin de sa vie, il n'aura plus d'argent. Il a donné à ses enfants des sommes d'argent relativement modestes, étant donné sa fortune personnelle, de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars. Si je ne me trompe pas, je ne crois même pas que ça soit en millions. Peut-être que je me trompe, hein, mais d'après ce que j'avais cru comprendre, c'était quelques centaines de milliers de dollars. Bon, bien sûr, ils ont eu une enfance relativement facile. Hein. Grandir dans la famille de Bill Gates, c'est pas qu'on est dans le besoin non plus. Et puis, quelques centaines de milliers de dollars, ça fait du bien pour commencer sa vie aussi. Mais ce qu'il compte faire avec sa fortune monumentale, c'est la donner à sa fondation pour essayer d'affecter toutes ces causes dont il pense qu'elles sont importantes à gérer. À noter qu'il est extrêmement aidé par Warren Buffett, qui donne presque autant que lui, si je ne me trompe pas. Et on compte en milliards. Hein. Chaque année, il donne des milliards supplémentaires à la fondation. Pour essayer de combattre ces problèmes qu'il a identifiés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est vraiment intéressant de voir la manière dont il approche, dont il appréhende ces questions. Il va lire beaucoup, s'informer énormément. Et quand je dis lire, évidemment, enfin, c'est pas lire Twitter ou Wikipédia. Hein. Il va prendre de la littérature scientifique ou du moins de la littérature de chercheurs sur le sujet. Il va s'isoler, il va lire sur tous les sujets, essayer de comprendre quel est selon lui le meilleur moyen de combattre les problèmes qui lui paraissent importants. D'une part, il essaye d'identifier les problèmes les plus importants, ceux sur lesquels, enfin, ceux qui, s'ils étaient réglés, auraient le plus d'impact sur l'humanité aujourd'hui. Et il va ensuite essayer d'avoir les meilleurs moyens d'affecter ces problèmes. C'est quelque chose de très analytique, qui est une approche vraiment, enfin, scientifique de la chose et scientifique appliquée, quoi. Et vraiment, alors, je sais qu'il y a, peut-être même que dans les gens qui écoutent cette émission, il y a des gens qui vont faire des qui vont grommeler quand je parle de Bill Gates, pour des raisons liées à son comportement dans l'informatique ou pour des raisons peut-être un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins intéressantes de rumeurs sur le personnage. Mais vraiment, c'est le genre de... Quoi qu'on pense de ce qu'il a fait avant, aujourd'hui, on est dans une attitude qui ne peut être que louée. Et non seulement il fait des choses bien, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, mais en plus, il essaye de faire des choses bien, je pense, de la bonne manière. Donc voilà, c'est une chose que je voulais noter, parce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien et qui est admirable et notable. Donc, je voulais en parler. Et le fait de... C'est vraiment un idéal, le fait de se dire, bah, j'ai gagné tout cet argent, mes enfants seront à l'aise dans la vie, mais l'argent, je vais l'utiliser de la meilleure manière que je peux et je ne vais pas le leur laisser, je vais le dépenser pour essayer d'améliorer le monde. Enfin, c'est un petit peu la version idéale de ce qui peut se passer dans ce genre de situation, quoi. Donc ça me paraissait intéressant à renoter. C'est pas la première fois qu'il dit qu'il va dépenser tout son argent, mais il a mis des plans supplémentaires et sur la quantité d'argent qu'il donne chaque année à la fondation, etc. Et puis les nouveaux objectifs de la fondation. Donc c'était l'occasion d'en reparler. Et puis, pour parler d'Elon Musk, comme on le fait dans la chatroom, d'une certaine manière, oui, même si on a dit beaucoup de mal d'Elon Musk ces dernières semaines, il essaye lui aussi d'avancer le parcours de l'humanité dans ce qu'il fait dans ces grosses sociétés, ou en tout cas, on va dire, avec SpaceX et avec Tesla, d'une certaine manière, et c'est ce qu'il dit lui-même, hein, c'est de la philanthropie Tesla à l'échelle industrielle pour essayer de combattre le changement climatique. Et il est convaincu, et je pense que ça se défend, qu'il faut que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire, interplanétaire, et que c'est dans ce but qu'il développe SpaceX pour essayer de commencer à coloniser Mars. Alors, est-ce que ça se fera? Est-ce que c'est même possible? C'est une autre question. Mais c'est vrai qu'à terme, enfin, les deux idéaux dans leur domaine respectif, je crois, sont louables dans cette optique. Bon, Bill Gates, c'est un petit peu plus concret ce qu'il fait, on va dire. On va dire ça comme ça. Un autre sujet qui m'a paru hyper intéressant, et là on est pile dans le domaine de la tech pour le coup, c'est, enfin, tech et légal, mais on parle des intelligences artificielles de créatrices, je vais le dire comme ça, des intelligences artificielles qui créent des choses. Alors évidemment, on va tout de suite penser à DALL-E, DALL-E 2, qui génère des images à partir d'une demande en texte. On en a parlé, vous avez vu partout, DALL-E Mini, qui s'appelle maintenant Crayon, qui est une version open source, on va dire, ou en tout cas qui se base sur des éléments open source de ce que fait DALL-E. C'est beaucoup moins efficace, DALL-E est beaucoup, beaucoup plus convaincant. Mais il y a ce genre de choses. Il y a GPT-3 qui écrit du texte. Il y a, on pense même à, comment il s'appelle, Copilot, l'outil de GitHub qui suggère du code en fonction de vos habitudes et de vos besoins sur du code pour programmer. Hein, c'est un outil pour les programmeurs qui ont besoin, enfin qui suggèrent des choses pour continuer leur programme. On parle aussi de Midjourney, dont je n'ai pas parlé. Ah bah c'est Guillaume Vendée qui est dans la chatroom, qui animera l'émission la semaine prochaine. Je n'ai pas essayé Midjourney, on m'en a dit beaucoup de bien. Je ne l'ai pas essayé moi-même, mais c'est encore un exemple d'un générateur de, d'images qui le fait selon certains styles, si je ne me trompe pas. Bah peut-être que Guillaume vous en parlera la semaine prochaine. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un problème légal lié à tous ces générateurs de contenu artistique, plus ou moins artistique. Et en fait, la question qui se pose dans les cercles créatifs et légaux aujourd'hui, c'est est-ce que les images, je vais parler d'images, hein, mais ça inclut l'ensemble des créations, est-ce que les images créées peuvent être considérées comme étant exploitables commercialement sans rétribuer, alors quoi, rétribuer qui ? Non pas l'IA ou le développeur de l'IA qui décide comment elle va être rétribuée pour l'utilisation de son IA, ça c'est établi et c'est pas discuté, mais est-ce qu'il faudrait également rétribuer les auteurs des images ou des textes sur lesquels ont été entraînés ces IA ? Parce que vous le savez, j'imagine, quand on crée un modèle de deep learning et de machine learning, on va entraîner des intelligences artificielles sur des sets de données immenses. Pour les images, on avait fait un épisode spécial sur le sujet qui avait été passionnant d'ailleurs. Pour les images, par exemple, on va prendre, je dis n'importe quoi, 200 000 images de chats et on va labelliser chacune des images chat. On va dire que, voilà, on donne à la machine toutes ces images qui sont des images de chat. Tu reconnais les éléments communs de toutes ces images et tu vas comprendre que par l'étude de toutes ces images, il va comprendre que ben, tout ça, c'est des chats. OK, donc je comprends, les chats, ça ressemble à ça. On va lui donner des images de chiens, des images de voitures, des images de chiens dans des voitures, des images de chiens avec des chats, etc. Et au fur et à mesure, avec beaucoup de complications, il va finir par comprendre les différents éléments et pouvoir les régurgiter ensuite. Mais toutes ces images dont on se sert des milliers, des centaines de milliers, des millions, des centaines de millions peut-être, eh ben elles viennent bien de quelque part. Elles viennent de quelque part des sets de données parfois ouverts, disponibles gratuitement, mais parfois, c'est aussi des sets de données qui sont peut-être, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a des œuvres, justement, qui appartiennent à quelqu'un ou qui sont entrées dans les sets pour différentes raisons. Pareil avec le code. Le code généré par Copilot, il est généré à partir d'une IA qui a étudié des données, codes, des programmes qui étaient sur GitHub. Et du coup, ces programmes ont été écrits par des gens qui n'ont pas forcément donné leur accord pour que ces images soient utilisées, même des petits morceaux ou des éléments, soient réutilisés ensuite commercialement par ces IA, par la société qui développe ces IA. Donc, il y a une question légale importante qui se pose là et qui n'est pas si évidente que ça. Évidemment, on peut arguer des deux côtés. D'une part, il y a tellement de données. C'est difficile de se dire est-ce que telle IA a utilisé spécifiquement telle image pour la reproduire de telle ou telle manière, et donc on a une filiation qui est facile, directe à identifier. Donc qui on va aller payer pour la production d'une image? Mais il y a des éléments qui peuvent se retrouver. Par exemple, il y a l'une des choses dont il parle dans l'article, c'est qu'il y a quelques années, les IA génératrices d'images avaient été entraînées sur des images disponibles gratuitement sur Internet, dont des images de banques d'images qui mettaient à disposition des images sur leur site web, mais avec le watermark, par exemple Shutterstock, le watermark Shutterstock sur les images. Et du coup, l'IA avait compris que ce watermark faisait partie des images et elle le reproduisait dans les images générées. Il a fallu ensuite adapter les modèles pour qu'ils ne prennent plus en compte ces watermarks. Donc, ça veut bien dire que certains éléments eh ben, ils sont repris très précisément s'ils sont présents sur, suffisamment d'images. Donc, c'est une question qui maintenant agite les cercles légaux, qui n'a pas vraiment de réponse et qui, encore une fois, peut être débattue des deux côtés. On peut dire, ben oui, mais c'est comme... on peut imaginer quelqu'un qui va s'inspirer de tout ce qu'il y a autour d'elle pour ensuite écrire un texte ou dessiner quelque chose ou peindre quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle a été, parce qu'elle s'est inspirée de tout ce qu'elle a vu dans les expos et sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elle a été faire un plagiat ou voler quelque chose. Donc, moi, je crois que au final, on se retrouvera avec un consensus qui sera « bah oui, mais c'est tellement vaste que ça n'est pas une prise directe d'un certain style artistique, mais... » ou d'une œuvre ou d'un créateur. Mais c'est vrai que sur Copilot, par exemple, il y a quelques semaines, il y avait des gens qui étaient surpris de retrouver des segments entiers de leur code qui étaient copiés parce qu'ils accomplissaient bien la fonction qui était nécessaire à la fonction demandée. Et du coup, bah, l'IA n'allait pas réinventer l'eau chaude à couper le beurre. Elle avait juste repris cette partie-là sans forcément la modifier. Et donc, la question s'était posée. Bon, c'est une question qui est ouverte. Et c'est une question qui risque de continuer à poser des questions à l'avenir. À voir. Un autre sujet intéressant, c'était celui des protestware. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le protestware, ce que sont les protestware ? Protestware, en fait, ce sont là encore des codes, des programmes open source qui sont modifiés par leurs développeurs pour protester contre quelque chose. Et c'est une idée vraiment intéressante, c'est-à-dire que certains de ces codes sont utilisés dans de très nombreux programmes. On parle encore de, bah, vous savez, dans l'open source, comme on l'avait vu avec Log4j, il y a certains codes qui sont très importants parce qu'ils font des choses qui sont très utiles et qui sont reprises par des grandes sociétés, et c'est de l'open source, donc bah, ils les reprennent partout, c'est gratuit, c'est important pour qu'il y ait ce genre de choses, pour construire, ça facilite la construction économique dans le domaine de la tech, hein, c'est pas quelque chose qu'on remet en question, mais bah, l'idée de la contribution en contrepartie est importante. Mais c'est pas ça la question aujourd'hui. Les projets open source sont parfois utilisés dans de nombreux programmes ensuite, et il y a des développeurs qui sont des développeurs de ces projets qui vont les modifier, parfois les saboter, faire en sorte qu'ils ne fonctionnent plus pour protester contre quelque chose. Donc toutes les sociétés qui vont utiliser ces programmes-là, ces projets-là, vont avoir des problèmes. Alors, quand c'est du sabotage, c'est-à-dire par exemple que le programme du coup ne va plus fonctionner du tout, ça peut avoir des répercussions sur tous les programmes, tous les services qu'il utilise. Et donc, c'est considéré comme du hack, d'une certaine manière. Donc, c'est supprimer des repos, des choses comme GitHub. Donc ça, ce n'est pas vraiment autorisé, mais ça peut arriver. Hein, un développeur qui dit « Ah oui, voilà, moi, je suis très remonté contre telle ou telle chose. » Ça peut être d'ailleurs contre le fait que les sociétés qui utilisent ce code ne contribuent pas à l'open source suffisamment. Et donc, ils veulent protester contre ça et leur montrer l'importance de l'open source. Et donc, ils sabotent leur propre code. C'est arrivé. Mais il y a aussi des exemples de développeurs qui vont insérer des messages, par exemple, ou des affichages d'images, je ne sais pas, ce genre de choses. Il y en a qui l'ont fait pour la question de la guerre en Ukraine, par exemple. Ce genre de choses. Donc, vraiment des messages d'activistes qui vont essayer d'attirer l'attention sur certaines choses. Et ça, ce n'est pas considéré comme du hack, c'est simplement, bah, voilà, on a un message à faire passer, on fournit le programme, et bah, le programme, il est tel quel. Hein. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez comme ça, et voilà. Et ce n'est pas tellement le fait que ces programmes existent qui me paraît notable, même si ça peut l'être. Ce qui est vraiment intéressant, c'est une manière de présenter son protest. C'est du activisme, oui, c'est un petit peu ça, Dr Valal. C'est du hacktivisme, mais qui passe par un biais qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qui est quand même assez intéressant, quoi. L'idée de prendre un programme open source populaire dont on est le développeur et puis de le modifier pour y intégrer soit du sabotage, soit un message, c'est un biais assez intéressant de hacktivisme. Donc voilà, ça s'appelle les protestware. Et il y en a de plus en plus. Et puis le dernier gros sujet que je voulais couvrir, c'est celui du sea lioning. Bon, on ne parle pas que de choses positives hein, aujourd'hui non plus, mais c'est une idée, comment dire, un concept qui est intéressant et qu'il est bon de pouvoir nommer pour le comprendre. C'est l'un de ces comportements qu'on voit en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, qui peut décontenancer et qui est effectif, qui peut fonctionner si on ne le comprend pas bien. Le sea lioning, c'est quoi ? Sea lion, c'est phoque. Non, c'est pas les phoques, c'est les lions de mer. Est-ce que c'est les phoques, les lions de mer ? Mais non, Patrick, qu'est-ce que tu racontes ? le sea lioning, c'est l'idée qu'on va aller... quand quelqu'un dit quelque chose, c'est une forme de... Les otaries. Ah bah merci, c'est les otaries. Merci, décidément, Dr Valal, très efficace. Donc les otaries, le lotaring, c'est une pratique qui consiste... C'est une forme de troll, on va dire, mais c'est l'idée qu'on va aller répondre à quelqu'un qui dit quelque chose qu'on n'apprécie pas en lui compliquant la vie sans forcément être ouvertement hyper agressif. Mais par exemple, en demandant... en demandant des justifications de ce que dit la personne et des justifications de base, c'est-à-dire que on va tuer un petit peu la conversation en demandant, en faisant dériver la conversation sur, par exemple, des éléments connus de tous, mais qu'on va quand même demander à justifier. C'est comme si, quand on vous dit « bah oui, la Terre est ronde », on va dire « mais attends, t'es sûr que 1 plus 1, ça fait 2 ?» D'où, comment tu le sais ? Enfin, j'exagère un peu, mais ce genre de choses. Et on va du coup peut-être répondre une fois, et la personne va revenir et revenir en posant plein de questions qui n'adressent pas le sujet principal. Et quand on va finir par dire « bon, écoute, ça va, je suis... cette conversation est terminée », là, la personne qui fait du sea lioning, qui fait de l'otarisme, va finir par dire « Mais attends, tu vois, tu veux pas discuter. Moi, j'essaye d'avoir une conversation rationnelle et toi, tu veux pas discuter. C'est toi qui refuses de discuter dès qu'on te pose des questions. » Et donc, c'est vraiment une manière de pervertir la conversation pour tuer dans l'œuf l'argument de la personne. Et je ne sais pas si c'est forcément fait de manière mal intentionnée, si c'est malicieux, au sens anglais du terme, mais clairement, c'est une pratique qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux et qu'il est bon de reconnaître. Je crois que quand on voit parfois sur des conversations un petit peu limites, j'hésite à répondre à certaines personnes. Parfois, je tente une fois ou deux. Et puis, si parfois, j'ai une bonne surprise et je me rends compte que la personne était vraiment curieuse de savoir, d'avoir plus d'explications sur le sujet. Et puis, parfois, je me rends compte que, bon, c'est quelqu'un qui le fait pas forcément de mauvaise foi, mais enfin, un petit peu pour aller chercher la petite bête. Et j'abandonne le fait de continuer la discussion. Mais si on n'est pas conscient du processus, parfois, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. Et puis, finalement, on se fait attaquer, on essaye d'expliquer. Et puis, on va se faire, nous aussi, on va se faire, attraper dans le truc et s'énerver. Et du coup, ça tue, de fait, la conversation. Donc, c'est bon de savoir. Alors, il y a plein de termes comme ça hein, dans les conversations qui sont bons à connaître, que ce soit, je ne sais pas, le gaslighting, ce genre de choses. Là, c'est le sea lioning. Et le sea lioning, c'est ce genre de pratique-là. Ça m'est paru intéressant. Donc voilà pour les 5 sujets que j'avais bien aimés. Peut-être que je vais vous faire un petit détail rapide de d'autres sujets qui sont un petit peu plus d'actu, un petit peu plus rapidement. Avant ça, je vais tout de même... Alors, il y a Top KO qui est venu mettre un message sur iTunes pour nous dire qu'il apprécie beaucoup le changement avec les trois nouveaux animateurs. Les trois nouveaux animateurs, donc c'était Jérôme, Marion et Guillaume, qui ont traité, comme je le disais, des Uber Files et du Z-Event et de ces sujets compliqués. Et Top KO a clairement aimé les nouveaux animateurs qui ont repris l'émission, et il dit qu'ils se laissent beaucoup plus parler entre eux et ne se coupent pas la parole. Ils ont des avis bien moins tranchés que le précédent. Bravo et bonne continuation. Mais écoute, Top KO, merci pour ce commentaire. Tu vois, dans cet épisode aussi, personne ne coupe la parole à personne. C'est formidable, non ? Nouvelle attitude du rendez-vous tech, on ne coupe plus la parole à qui que ce soit. Je travaille sur mon professionnalisme de podcasteur. Donc, c'était juste pour remercier Top KO et les commentaires sur iTunes. Et bien sûr, vous le savez, si vous voulez soutenir l'émission, le meilleur moyen, c'est patreon.com/rdvtech. C'est comme ça que l'émission... C'est grâce à vous que l'émission existe. Si vous appréciez ce que je fais, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon allez, quelques news un petit peu plus rapides pour le reste de l'actualité. Je sais jamais si le jingle est trop faible. Je crois qu'il est peut-être un petit peu trop faible au niveau du volume, mais c'est difficile à régler. Alors, d'abord, une perspective intéressante sur la question des productions de puces. On a eu pas mal de news sur la manière dont les différents pays, et même peut-être continents ou unions fédérales, vont essayer de limiter leur dépendance aux puces, aux fabricants de puces en Asie. Et beaucoup, vous le savez, investissent dans la fabrication, dans la construction d'usines. Évidemment, c'est quelque chose d'important, mais il y a d'ailleurs le CHIPS Plus Act qui a été voté aux États-Unis. Ils investissent quand même, de milliards. La Chine investit genre 150 milliards jusqu'en 2030. Il y a des questions de collaboration entre les États-Unis et le Japon pour des champs de recherche, de la recherche sur des puces 2 nanomètres qui pourraient entrer en production en 2025. Les États-Unis, visiblement, essayent de limiter la capacité de la Chine à produire des puces au-dessous de 14 nanomètres. Enfin, il y a vraiment une bataille importante qui s'engage dans ce domaine. Mais il y a un article assez intéressant de Nikkei Asia qui parle du fait que, oui, les usines, c'est important, évidemment, mais en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est à quel point la chaîne de production remonte plus loin que juste les usines. Et ils ont un article qui détaille la manière dont les fabricants à Taïwan spécifiquement ont eu des problèmes avec leurs fournisseurs qui eux-mêmes avaient des problèmes avec leurs propres fournisseurs. Et on a déjà parlé des questions des fabricants. Il y en a des Hollandais d'ailleurs qui fabriquent des lasers, qui sont parmi les seuls fabricants dans le monde à pouvoir fabriquer ces machines dont se servent les usines pour graver les puces. Et donc, on peut construire des usines, mais si on n'a pas les machines laser qui gravent les puces, c'est un problème. Mais même quand on va chez les fournisseurs, par exemple au Japon, eux ont des problèmes pour des composants haute technologie, on va dire, comme ces lasers, mais pas que. Il y a des questions on avait pensé aux lentilles aussi, qui sont fabriquées par Zeiss, par exemple, mais il y a aussi des choses aussi simples que des valves qui, je ne me souviens plus dans quelle machine spécifiquement c'était nécessaire dans le, dans le cadre de l'article, mais il y a certains fournisseurs de fournisseurs qui n'arrivent pas à se fournir eux-mêmes en valves, en tubes, en pompes faites par des plastiques spécifiques, faites dans des plastiques spécifiques. Et du coup, ils n'arrivent pas à fournir ces éléments essentiels aux usines pour qu'elles fonctionnent. Donc, on risque de se retrouver avec des usines construites dans 1 ou 2 ans qui ne pourront pas fonctionner parce qu'elles n'ont pas réussi à se fournir chez les fournisseurs qui, eux-mêmes, ne pouvaient pas se fournir chez les fournisseurs. Alors, évidemment, ce sont des choses qui vont prendre un petit peu de temps à se résoudre, mais qui vont se résoudre parce que la loi de l'offre et de la demande fait qu'il y aura plus de choses qui vont être mises en chantier pour fournir tout ça. Par contre, ce que ça met à mal, c'est l'idée qu'il suffit de construire des usines de puces pour que les puces commencent à être fabriquées. En fait, il va falloir regonfler la chaîne de production beaucoup plus en amont que ce qu'on pensait jusqu'ici. Et ça va se faire, hein, c'est en cours. Et encore une fois, la pénurie est là parce que, non pas parce qu'on n'arrive pas à fabriquer, mais parce qu'on n'en fabrique pas assez, la demande a plus augmenté. Mais voilà, c'est une chose qui était intéressante à noter. Ceci dit, il y a des fabricants qui commencent à réussir à sécuriser leur chaîne de production. On sait notamment que Sony dit que pour la fin de l'année, les PlayStation 5 seront disponibles en plus grande quantité, enfin. Donc peut-être que certains réussissent à gérer ces problèmes-là et que les choses se règlent petit à petit. Et puisqu'on parle de puces, je disais tout à l'heure, je ne vais pas en parler toutes les semaines, mais quand il y a des choses intéressantes, on va le noter évidemment. Eh bien, en l'occurrence, il y a, ce n'est pas des choses avérées, mais il y a un article intéressant chez TechRadar qui parle des leaks de AMD et Nvidia sur leur prochaine puce. Alors, dans le cadre de Nvidia, on parle des cartes graphiques de la série 4000, et dans le cas de AMD, on parle des prochains processeurs Ryzen, en particulier des processeurs les plus gros, les plus puissants. Et on a notamment, selon certaines sources, des processeurs les plus grosses cartes graphiques de Nvidia de la série 4000, la prochaine série, risquent de consommer jusqu'à 800 watts de puissance. Alors 800 watts, c'est ahurissant comme puissance. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, enfin, un PC entier peut tourner sur, allez, même si c'est un petit 250 watts, si c'est un portable, on parle de 50 watts, quoi. Peut-être même moins si c'est un portable plus léger. Bon, on va dire autour de 50 ou 100 watts, quelque chose comme ça. Rien que la carte graphique consommerait 800 watts. Et c'est notable parce que les cartes graphiques super puissantes de la génération précédente, on était déjà à beaucoup. Et on était à, je ne sais plus, quelque chose comme 400-500 watts sur des grosses cartes graphiques de la génération précédente. Donc, on aurait un doublement de la puissance nécessaire pour les processeurs, et pas les processeurs, les coprocesseurs graphiques, pour les Ryzen, on parle de 170 watts, quelque chose comme ça, rien que pour le processeur. Et il ne faut pas oublier que si on a un processeur, une carte graphique et bah, tout ce qu'il y a autour, ça consomme encore plus. Donc, on pourrait arriver à des systèmes qui consomment plus de 1000 watts. Alors, ce n'est pas qu'il n'y avait aucun système au monde qui consommait qui avait ce genre de comment dire, d'alimentation nécessaire. Mais enfin, clairement, vu... C'est ça l'autre côté de la discussion, c'est que les bénéfices semblent être assez limités. Alors, il faudra attendre les tests, hein. Mais on double la consommation pour des bénéfices qui sont vraiment minimes. Et du coup, on se demande si c'est vraiment le moment de prendre ce genre d'orientation, d'autant plus qu'on a des constructeurs comme Apple qui font des processeurs qui consomment très très peu et qui réussissent à avoir une puissance quand même assez notable avec leur processeur Apple Silicon. Bon. On verra quand ces processeurs seront annoncés, ça devrait plus trop tarder. Mais franchement, même moi qui suis un joueur et qui suis l'actualité du matériel depuis longtemps, je dois vous avouer que si on est à une puissance nécessaire de 800 watts pour les plus gros coprocesseurs graphiques Nvidia, là on est à un niveau où on marche vraiment sur la tête, quoi. 800 watts, ça n'est plus du tout... On est, enfin, À chaud comme ça, je vous dirais, c'est vraiment déraisonnable. À moins que la puissance soit décuplée, et ce n'est pas le cas, à moins que la puissance soit décuplée, et du coup, on se dit, bon, bah, au moins, oui, ça consomme beaucoup, mais il y a un bénéfice. Là, on est dans une situation ubuesque où on consomme deux fois plus, et les bénéfices sont, je pense, assez minimes. Et puis, comment on va refroidir ça ? Là, je pense qu'on peut vraiment parler de gâchis. On attendra d'avoir vraiment les informations sur ces processeurs avant de se prononcer pour de bon. La FTC, dont Lina Khan est la présidente, a lancé un procès contre Meta, donc contre anciennement Facebook, sur l'acquisition de Weavin. Weavin, c'est une société qui développe du logiciel de réalité virtuelle. C'est du sport, hein, de l'exercice. Mais ça, c'est pas très important. C'est le premier procès pour bloquer une acquisition d'un GAFAM d'une plus petite société. Alors, Lina Khan, dans son... vous savez qu'elle était... On s'attendait à ce qu'elle fasse quelque chose comme ça. Elle est très, très anti-monopole des GAFAM en particulier. C'est sur ça qu'elle a écrit dans ses travaux académiques. Et là, on est sur une petite acquisition qui est un petit peu surprenante quand même, parce que Weavin, ce n'est pas un truc énorme, mais son argument, c'est que Meta, plutôt que d'innover par eux-mêmes, décide d'acheter un potentiel concurrent. Et dans le contexte de ce développement de métavers vers lequel ils veulent aller chez Meta, eh ben cette acquisition enlève de la compétition potentielle. Il y a des questions sur la manière dont elle a jugé la viabilité du procès. Mon instinct me dit, est-ce qu'elle ne cherchait pas une raison de lancer la chose ? C'est possible, mais ça sera intéressant à suivre. Et puis peut-être que ça peut avoir une influence sur la manière dont le secteur de la tech, dans son ensemble, approche les acquisitions, et que l'intention pourrait être de dire, c'est la fin de la récré, quoi. Vous avez maintenant plus la possibilité d'acheter n'importe quelle société. Alors, ça a d'autres conséquences ensuite dans le développement de ces petites sociétés dont parfois l'idée est peut-être de se faire revendre à un gros, mais peut-être que c'est une inflexion du fonctionnement de ce secteur qui pourrait être notable, à voir comment ça progresse, quoi. Uber change aussi de politique, semble-t-il, aux États-Unis. Vous savez que Uber... Alors, qu'est-ce qu'il change ? Ils ont annoncé des nouvelles fonctionnalités dans leur app, non pas pour les passagers, mais pour les chauffeurs, pour leur donner plus de contrôle sur la manière dont ils acceptent ou ont des informations sur les courses à venir. Ils ont d'une part la possibilité de savoir exactement combien leur rapportera la course avant de l'accepter, et ils pourront également savoir où ils vont dans la course avant de l'accepter. C'est intéressant parce que d'une part, c'est des idées qui vont rappeler des moments cauchemardesques aux Parisiens qui essayaient d'avoir un taxi la nuit avant qu'Uber n'arrive, justement, parce que je pense que tout le monde a eu l'expérience d'un chauffeur qui te dit « Ah ben non, là j'y vais pas » ou alors « Ah, je prends pas la carte bleue », ce genre de choses. Et là, donc, ça pourra donner l'opportunité aux chauffeurs de refuser des courses, par exemple, dans des endroits qui sont moins desservis, ou peut-être que le prix sera ajusté dynamiquement, donc ça leur proposera plus de sous, mais du coup, ça pénalisera les gens qui veulent aller dans ces régions, dans ces quartiers, et on imagine bien que ça, c'est pas forcément les quartiers les plus paisibles et les plus riches qui vont être affectés, mais bon, tout ça mis à part, la raison pour laquelle Uber fait ces changements, c'est qu'ils n'ont pas de chauffeurs. C'est qu'ils ont du mal à recruter des chauffeurs. Suite à la pandémie, les choses ont un petit peu changé. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup de chauffeurs aux États-Unis. Donc, peut-être que c'est un ajustement du marché. Je ne sais pas si c'est le cas en France aussi. On sait que les conditions de travail, même si ces choses-là, le fait de pouvoir choisir sa course, ce n'est pas le cas, mais les conditions de travail sont un petit peu différentes en France parce que l'État a imposé des choses à Uber qui ne lui sont pas imposées aux États-Unis, évidemment. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'ils font un petit changement dans leur approche de la gestion des chauffeurs, à voir si ça sera exporté ailleurs aussi. Vous vous souvenez de la fonctionnalité des iPhones qui pouvait détecter les nudes, les photos de nus, dans notamment iMessage, qui avait été, qui avait posé, enfin qui avait provoqué une levée de bouclier, parce qu'on craignait que cette technologie ne soit utilisée pour d'autres choses. C'est-à-dire que l'idée annoncée l'année dernière, c'était que il y aurait une fonctionnalité qui permettrait aux parents, enfin qui serait activée sur les iPhones, qui surveillerait les messages envoyés par iMessage et qui préviendrait les parents s'il y avait une image, en plus de prévenir l'utilisateur, l'enfant, s'il y avait une image de nu. Et l'idée que, à l'insu de l'utilisateur, même pour un enfant, ça soit envoyé aux parents et même potentiellement aux autorités, était problématique pour des questions de vie privée. Pas forcément sur les questions... alors, c'était des problèmes de pédopornographie, évidemment, mais pas forcément que pour ça, mais pour ce que ça pouvait impliquer ensuite. Eh bien, la solution qui a été trouvée, qui sera implémentée chez nous à la rentrée, ça sera a priori avec iOS 16, c'est que les parents pourront activer la fonctionnalité, mais la fonctionnalité restera limitée à l'appareil de l'enfant. C'est-à-dire que les parents pourront activer la détection de photos de nus, que ce soit de photos envoyées ou de photos reçues. Comme c'était expliqué auparavant, la photo sera floutée avec un avertissement à l'utilisateur qui dira, l'avertissement dira « Attention, c'est une photo qui semble problématique. Est-ce que tu es sûr de vouloir la voir? Est-ce que tu veux prévenir tes parents ?» Mais ça sera le choix de l'enfant de le faire ou non. Et l'enfant pourra décider de le voir quand même. Donc, en gros, l'intervention de l'intelligence artificielle en question reste contrainte à l'appareil et à son utilisateur. Ce qui est un compromis qui semble... parce que moi, je pense que évidemment le fait de protéger les enfants est toujours louable, mais je pouvais voir les dérives que pouvait provoquer ou que pouvait faire craindre ce genre de technologie si c'était utilisé pour ça d'une manière dangereuse ou pour d'autres choses, évidemment. Mais là, l'idée de contraindre complètement le processus à l'appareil et à l'utilisateur, donc, sans jamais en prévenir l'extérieur, ça semble instaurer une convention à laquelle on peut se référer. On peut dire, oui, c'est comme ça qu'on fait les choses, qui en amène une bonne partie des bénéfices. Parce que bon, les enfants, s'ils veulent faire ce genre de truc, ils trouveront un moyen de toute façon. Là, au moins, ils sont prévenus. Et entre parenthèses, ça ne s'applique que à iMessage. Ça ne s'applique pas à WhatsApp ou d'autres applications qu'ils pourraient utiliser. Mais c'est une convention qui me semble être plutôt un bon compromis. Donc voilà, ça sera implémenté en Europe, a priori, à la rentrée. On parlait de Instagram qui copie TikTok. Et que ça soit devenu insupportable sur Instagram avec un changement de l'interface et des suggestions de Reels et de copies de TikTok absolument infernales, eh bien, les Kardashians s'en sont mêlées et elles aussi sont exaspérées. Et du coup, après avoir tenté d'expliquer, Adam Mosseri, le chef de Instagram, après avoir tenté d'expliquer « oui, mais c'est pour ça, c'est pour telle raison et telle raison », eh bien, il finit par faire marche arrière, alors pas sur tout, et je pense pas que l'idée, c'est qu'on revienne à l'Instagram de, 2012 non plus, mais au-delà du fait qu'il faille évidemment continuer à faire évoluer un produit, on ne peut pas faire du surplace, je pense que le consensus aujourd'hui peut être forcé, y compris chez Instagram, c'est qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ont trop dénaturé l'expérience d'Instagram. Donc, ils vont revenir un petit peu en arrière, moins forcer des suggestions dans votre flux, moins forcer des vidéos plein écran dans votre flux. En gros, moins transformer Instagram en TikTok. Peut-être qu'ils reviendront à la charge plus subtilement au fur et à mesure, mais en tout cas, ces changements qu'on notait ces dernières semaines, on parle de 2 ou 3 mois, qui étaient vraiment drastiques, ont eu un effet et la communauté a réagi de façon très négative. Et ils ont été obligés d'en prendre compte. Il faut noter que Kylie Jenner, elle a quand même fait chuter la valeur boursière de Snapchat le jour où elle a dit « Snapchat, c'est plus cool ». Et ça n'a pas tué le réseau, mais donc Instagram a dû avoir un petit peu peur quand même que Kylie Jenner commence à s'en mêler. Mais ce n'est pas juste de ça dont je voulais parler avec Instagram. Je voulais aussi parler de Dual. Je ne sais pas si vous connaissez Dual, peut-être que je peux poser la question à la chatroom, mais est-ce que vous connaissez BeReal ? B-E-R-E-A-L. BeReal, c'est une application, une app française qui est la coqueluche de tous les App Store depuis quelques mois, je dirais même depuis peut-être, ça doit faire 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Et c'est un réseau social qui vous engage à avoir... Attendez, on me pose une question dans la chatroom par rapport à la fonctionnalité d'Apple par rapport aux images. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vais essayer de répondre. On nous dit, j'ai pas compris le principe pour cette histoire d'avertissement sur les images. On permet à des mineurs d'avoir accès à du contenu qui leur est prohibé s'ils l'acceptent, ou j'ai mal compris. Alors, effectivement, ce contenu peut être envoyé de toute façon par iMessage, c'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer une image pédopornographique ou simplement, on pense aux nudes, hein, on pense à quelqu'un qui envoie une photo de lui-même ou d'elle-même à un partenaire ou à quelqu'un d'autre ou du revenge porn, ce genre de choses, par iMessage. Alors ça, c'est déjà possible. C'est pas que c'était pas possible. Et c'est possible aujourd'hui. Apple essayait de trouver un moyen pas de combattre la chose, on va dire. Leur idée à la base, c'était de bloquer ce contenu et de l'autoriser, mais seulement en prévenant les parents. S'ils réussissaient à détecter du contenu de cette nature, c'est du contenu qui est détecté essentiellement par intelligence artificielle, mais la crainte était que on puisse prévenir non pas les parents, mais des autorités pour d'autres types de contenus qui seraient considérés comme inacceptables par certains gouvernements, par exemple. Donc ça, c'était la crainte. Et la solution qu'a trouvé Apple, c'est de dire « Ok, on va quand même le détecter, mais on va mettre un label, flouter la chose, mettre un label, prévenir, pour mettre au moins un petit peu de friction et que ça ne soit pas juste affiché, qu'on le veuille ou non. » Donc oui, le résultat, c'est que, on va dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le voir et ensuite on va le voir ? Mais il faut bien voir que l'alternative qui existe aujourd'hui, c'est juste que l'image s'affiche. Donc, l'image s'affiche dans vos messages iMessage. Donc, c'est quand même un pas dans le bon sens, on va dire. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Donc, BeReal, c'est quoi ? C'est la coqueluche, la nouvelle app qui est la coqueluche de réseaux sociaux, qui est très, très populaire dans le top des charts aux États-Unis, mais pas que, et c'est une app française. C'est une app qui vous propose chaque jour de prendre une photo. Ils envoient une notification et dans les 2 minutes, vous devez prendre une photo de ce qu'il y a devant vous. Et il y a c'est 2 photos, une photo de ce qu'il y a devant vous et puis en petit, une photo de vous derrière. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas des photos super travaillées comme sur Instagram par les influenceurs et influenceuses, etc. Là, c'est vraiment, soyez vous-même, à tel moment, vous prenez la photo là où vous êtes. Alors évidemment, c'est compliqué de prendre les photos dans les 2 minutes, quoi qu'il arrive. Donc on peut aussi poster un late BeReal et du coup... On peut poster même plus tard. Mais on en fera une par jour et on ne peut pas voir les photos de nos contacts si on n'a pas posté la nôtre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de savoir ce que font nos amis. C'est plutôt un truc personnel, hein, a priori. Et ça a vraiment le banc en poupe. Eh bien, ça n'a pas manqué. Instagram est en train de tester une fonctionnalité qui s'appelle Dual, qui est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est pour des stories, mais c'est une implémentation qui est, on va dire, hâtive de ce concept. Et c'est pas exactement le... Disons que c'est le même format, mais l'utilisation est évidemment différente parce que là, c'est intégré dans les stories d'Instagram et donc on peut les voir, n'importe qui peut les voir, etc. Mais le format, c'est clairement une copie. Et que ça tombe au moment où ils doivent faire marche arrière sur la copie de TikTok parce que tout le monde s'en plaint, c'est assez croustillant parce que ça montre à quel point Instagram ne fait que copier. J'avais vu un tweet quelque part assez juste qui disait « Il n'y a pas une seule fonctionnalité qu'Instagram n'a pas eu envie de copier » ou que Zuckerberg n'a pas eu envie de copier. Et bon, c'est vrai, maintenant, faut pas oublier que les stories, elles existaient chez Snapchat, mais elles ont été vraiment popularisées par Instagram. Donc peut-être que ce format de Bireel ou de Dual sera un succès pour Instagram. C'est tout à fait possible. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir à quel point ça se ressemble, quoi. Et puis, le dernier truc que je voulais mentionner rapidos, c'est la date du procès de Twitter contre Elon Musk qui a été fixé au 17 octobre, du 17 au 21 octobre. Donc, préparez-vous au cirque. Et entre-temps, Elon Musk a contre-attaqué légalement, a fait un contre-procès à Twitter. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, comment. On risque d'avoir des informations dans pas trop longtemps quand ils vont... quand on aura les versions avec les informations sensibles retirées donc du brief du procès qui seront rendues publiques. Mais bon, Elon Musk a fait un contre-procès à Twitter, mettant pas plus là-dessus, simplement du 17 au 21 octobre, ça va être le cirque. On a quelques semaines avant pour se reposer quand même. Et voilà pour cet épisode, de Tranquilux. Ou Tranquilax, je ne sais pas si on a si on a déterminé lequel c'était du rendez-vous tech. Bah, on a quand même fait une petite heure. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je me suis bien amusé. C'était sympathique de parler de ces sujets qui m'avaient marqué, et notamment ces sujets un petit peu plus positifs peut-être en début d'émission. Et puis, bah, je vais du coup vous abandonner. Je vais partir. Bon, j'ai quand même le rendez-vous jeu. Cette semaine, qui sera lui aussi en mode Tranquilux. Alors peut-être que le rendez-vous tech, ça sera Tranquilax et le rendez-vous jeu Tranquilux, qui arrivera jeudi. Mais après ça, donc ma semaine de vacances. Et puis je reviens, vous serez au show avec Guillaume. Et il y aura ma semaine de vacances la semaine prochaine, oui, pendant laquelle vous serez au show. Et après, je reviens, troisième semaine d'août. Et on repart pour encore une saison formidable de Rendez-vous Tech. Je la sens bien. Moi, je pense que ça va être un moment où l'émission sera encore meilleure et peut-être encore un petit peu plus équilibrée. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, même deux excellentes semaines. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances si vous partez, si vous êtes des Aoussiens. Et que vous allez passer de bonnes journées de travail si vous êtes au boulot. N'hésitez pas à regarder du côté de notepatrick.com pour tout ce qui est lien vers tout ce que je fais. Il y a le Discord où on s'amuse bien, il y a le Twitch bien sûr, les comptes de réseaux sociaux et tout ça. Et puis je vous fais de grosses grosses bises et je vous dis donc à dans deux semaines. Ciao à tous et à toutes. Est-ce que je vais faire le générique à la main ? Allez hop, on y va. Soyons fous. Ciao à tous et à toutes. Petit ASMR bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.